Je me suis dit que c'était bien, que les choses changent un peu.
Anything is possible with hard work.
You become what you believe.
Quand on décide de changer sa vie, alors on est entrepreneur. En réalité, c'est pas une question de monter une boîte ou pas, c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie.
2020 aura été marqué par une remise en question d'une part de notre humanité. Fini les conversations badines autour d'un café, interdit ces déjeuners ou dîners entre amis, banni cette liberté d'aller et de venir à notre gré. Comment vivre ce chamboulement de nos vies? Comment retrouver un peu de bonheur dans ces moments confinés? C'est à Maline Ridal, auteure de plusieurs ouvrages dont le best-seller « Heureux comme un Danois », mais aussi conférencière et executive coach, que j'ai posé la question en cette fin d'année 2020. Bonjour Maline.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez toi, un endroit très higueux pour reprendre le concept danois qui t'est cher. Juste avant de commencer, qu'est-ce que c'est exactement que le hygge?
Alors le hygge, c'est un concept danois qui a été rendu très connu et populaire par un livre qui a été publié il y a 3 ans, qui décrit ce concept. Alors c'est des moments chaleureux avec, comme vous le voyez autour de vous, plein de bougies, avec feu de cheminée éventuellement, des boissons chaudes, des gâteaux. C'est des moments où on est ensemble, où on est connectés les uns avec les autres. Pour avoir du hygge, il faut avoir une certaine forme de simplicité et il faut surtout être présent et donc être connecté avec soi mais aussi avec l'autre. Donc on ne peut pas faire du multitasking dans le hygge, c'est vraiment des moments où on est ensemble. Et d'ailleurs, petite précision, le hygge, on pourrait le comparer à du cocooning ou en France, mais c'est quelque chose où au Danemark on le pratique tous les jours et ça ne peut pas être excluant et on ne peut pas se vanter de ses exploits. On va chercher dans ces moments-là à trouver ce qui nous lie dans la vie et pas ce qui nous différencie.
C'est un peu ce qu'on a finalement vécu pendant cette année 2020 si particulière.
Alors on a eu ce côté où on a, contre notre propre volonté, on a ralenti, donc le temps s'est un peu arrêté, donc on a été forcé de se trouver ensemble, mais par moments sans avoir l'habitude de le faire. Donc on ne savait pas trop comment faire, peut-être dans certaines relations, on n'avait pas l'habitude de passer du temps ensemble. Mais je pense que c'est une des choses qui a pu faire du bien et qu'on entend aussi que les gens disent qu'ils s'en trouvent ce lien avec les autres dans le foyer ou avec des amis parce qu'on a eu plus de temps justement pour nourrir et travailler nos bonnes relations.
Alors, je voulais savoir ce qui t'avait le plus marqué ou touché cette année.
Je pense que cette crise sanitaire a été comme un miroir grossissant. Et je pense que tout dysfonctionnement, ou fonctionnement d'ailleurs, a été mis en pleine lumière où le dysfonctionnement dans les entreprises ou dans les vies privées ont éclaté en plein jour. Donc ça a été un accélérateur de quelque chose qui n'allait pas ou quelque chose qui allait dans le sens contraire, parce que les choses qui allaient ont pu peut-être plus fleurir, se nourrir, avoir du temps et de l'espace. Donc ça m'a aussi, personnellement, c'est vrai que moi j'ai été coupée beaucoup de mon activité parce que comme je donne des conférences et je vis de cela, j'ai perdu une grande partie de mon activité effectivement. Et je pense que ce qui m'a marqué, c'est ce temps supplémentaire du vide. Comment on arrive à le remplir avec une certaine forme de créativité et aussi le fait d'être forcé à être hors de notre zone de confort. Et une grande partie de nous, on passe notre vie dans notre zone de confort parce que c'est plus agréable. Et cette crise nous a forcé tous à aller là où on ne voulait pas aller, avoir moins de revenus peut-être, travailler chez nous, être confiné avec les personnes qu'on aime mais avec qui on n'a pas l'habitude de passer autant de temps. Et je pense que ça nous a fait tous grandir. On a appris des choses dans cette année qu'on ne voulait pas, mais on a forcément appris des choses. Dans toute épreuve, et ça c'est quelque chose qui m'est très cher dans tous les enseignements de bonheur, c'est de vraiment, vraiment adopter cette attitude de comprendre que toute épreuve de la vie nous apprend et nous donne à la fin une sorte de cadeau d'apprentissage, d'avoir grandi et d'avoir pouvoir mieux faire dans l'avenir, dans nos relations et dans notre vie de manière générale.
On n'aura plus envie de revenir
en arrière. Tu parlais de cette zone de confort qui a été mise à rude épreuve. On n'aura plus envie de se dire, bah, si les choses s'arrangent, puisqu'à un moment donné, elles vont s'arranger, on n'aura pas envie de revenir à cette vie qu'on vivait avant, à cette manière de penser.
Je pense qu'il y aura peut-être, quand on sera à nouveau, entre guillemets, libéré, et on va pouvoir aller au restaurant consommer, enfin là, on peut déjà aller dans les boutiques, mais on parle beaucoup de l'épargne des Français, notamment, qu'on a beaucoup épargné pendant cette crise. Et je pense qu'il y aura peut-être un petit effet dépense, voyage, qu'on a envie de rattraper le temps perdu, et donc il y aura une surconsommation à un moment donné, en 2021, mais je pense que ça va se réajuster. Pour moi, ce n'est pas possible que cette période n'a pas laissé des marques dans un sens positif aussi, avec ce recul, en disant que oui, mais finalement, pendant le confinement, j'avais pas besoin de bouger tout le temps, j'avais pas besoin, parce que ce qu'on fait dans ce monde qui va vite, c'est aussi que on occupe l'espace, on occupe le temps, et chaque espace de vide, bah, on le remplit pour quasiment jamais être face à soi-même. Et donc, pour ne jamais vraiment parler des choses qui ne vont pas, prendre ce temps de réflexion où on se pose des bonnes questions. Est-ce que je suis dans la bonne vie? Est-ce que je suis alignée? Je pense que tu la connais, ma définition du bonheur, c'est que je parle beaucoup, moi, du bonheur, je parle de l'alignement, je parle du fait d'être alignée entre ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait à la fin. Et cet alignement-là, ça prend du temps de vérifier si on est aligné, si on est fidèle à soi-même, si on est sur la bonne voie. Quand ça va vite, on n'a pas le temps parce qu'on travaille et du coup, les événements les uns prennent les autres et après on dort. Et on se réveille le matin et on prend la douche et on sort de son appartement ou sa maison et on recommence. Et donc je pense que vraiment cette recul et cette réflexion, d'ailleurs on a vu aussi cette tendance des gens qui ont quitté la ville, qui ont pris pour ceux qui sont suffisamment privilégiés pour le faire, mais qui ont pris des résidences secondaires à la campagne, qui ont vraiment eu besoin de ce calme. J'entreviens dans des clubs avec des patrons de PME et pendant la crise, je les interviewais ou je parlais avant la formation de comment ils allaient. Et en fait, une très grande partie de ces personnes me parlaient de leur jardin. Et ils me disaient, oui, j'ai vu, parce que c'était le printemps, j'ai vu les fleurs qui se... En fait, c'était presque des poètes. Alors que d'habitude, quand j'interviens, ils me parlent plutôt de leur business. Donc, je pense que vraiment, il y a eu une sorte de prise de conscience, une connexion même un peu avec la nature.
Tu as écrit sur le bonheur plusieurs livres, Heureux comme un Danois, qui donc, là encore, questionnait ce sujet du bonheur. Le second, Les cinq pièges du bonheur aussi, était une réflexion sur les pièges du bonheur et justement ce qui fait le bonheur. Cette période, elle a fait évoluer chez toi les ingrédients du bonheur. Tu citais là quelques exemples, le retour à des choses simples. Est-ce que chez toi, dans ta réflexion sur justement ce sujet du bonheur et du bien-être, les choses ont un peu évolué?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a reconfirmé l'importance de la qualité de nos relations. Donc, cette fameuse étude de Howard University sur 75 ans, sur 728 hommes qu'on a suivis avec des centaines de questions pour savoir comment ils allaient. Et la conclusion de cette grande étude, c'est que l'élément qui a le plus d'influence sur notre bonheur et bien-être sur une vie, c'est la qualité de nos relations. C'est notre capacité à bien s'entendre avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et ça, je pense que ça a été mis en évidence que ce qui nous a fait le plus de mal, c'est la coupure de nos liens sociaux. Et ça, c'est ce qui m'a personnellement le plus affectée. Ça, c'est évident. Alors après, on a pu le faire par Zoom ou autre, mais le fait de voir, et même aussi, parce que c'est une crise sanitaire, de ne pas pouvoir prendre les gens dans les bras, pour moi, ça a été... Pour le coup, peut-être le pire épreuve de la crise. Bien plus pire que perdre mes revenus.
Justement, c'est vrai qu'on a vu une explosion du digital. Il était déjà très présent, mais il y a eu une surconsommation de Zoom pour garder le lien avec ses collaborateurs. Et on a eu des apéros virtuels. On continue, je pense, à en avoir entre amis. Tout ça a explosé. Est-ce que ça a permis de maintenir quand même
ce lien social qui est essentiel au bonheur et de finalement limiter les effets néfastes de cette perte de lien social physique, j'ai envie de dire. Comment tu l'as interprété, toi ?
Ben, je pense qu'il y a eu beaucoup de positifs. Hein. C'est vrai qu'effectivement, ça a permis à garder un certain contact. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Donc, ça nous a aidés. Maintenant, ça a des limites. Évidemment, comme aussi les médias sociaux, où il y a des liens aussi, où on garde le contact avec je ne sais combien de personnes. Donc, ça, toutes ces relations qui sous en forme, une forme digitale, je pense que ça a des limites. Ça peut avoir des vertus et effectivement nous permettre, pendant la crise, de voir des gens et de discuter. Mais ce qui relève de l'entreprise, là où ça a été difficile, c'est que dans un format Zoom ou Teams ou autre, en fait, dans la relation, ce qui nous fait beaucoup de bien, c'est en fait, dans une vie, on a des petites peines ou des petites inquiétudes. Et au bureau, quand on va croiser quelqu'un dans le couloir ou à la machine de café, on va pouvoir parler de notre petit chat qui est malade peut-être, et un autre collègue va dire « Ah, t'as pas l'air en forme, oui, mon chat est malade. » Et donc, l'autre va pouvoir peut-être montrer par une petite phrase en disant « Je connais, je suis aussi un chien, c'est vrai qu'on s'attache aux animaux. » Et en fait, on va aller mieux par ce contact social avec quelqu'un, avec une forme d'empathie, de compassion. Et puis, on se sent un peu reboosté et on continue notre journée, mais avec cette... Et ça, évidemment, dans ce format de Zoom, il y a personne qui va dire « Oh, j'aimerais vous dire avant de commencer que mon chat est malade. » Parce que ça ne peut pas se faire. Donc, mine de rien, il y a une énorme manque et une forme de solitude et vide de ces petites touches dans une journée qu'on a avec les gens à nouveau dans le lien social, parce qu'on se sent plus seul peut-être avec notre tristesse. Et aussi, si on passe plus de temps sur les médias sociaux, on pourrait éventuellement à nouveau comparer nos vies à celles des autres, se sentir plus seul ou plus... Donc ceux qui montrent qu'ils font des gâteaux toutes les journées, donc il y a eu le fait de se comparer en disant que moi, j'ai pas fait mon pain. Et donc à nouveau, à se sentir entre guillemets nul, en se comparant aux autres. Et en plus, on arrive, comme je le disais tout à l'heure, comme étant ce temps mort de réflexion, si ça va dans le mauvais sens à imaginer qu'on est nul et qu'on n'est pas assez bien, du coup, ça peut créer évidemment une spirale dans le mauvais sens. Ça, c'est évident.
Et on le voit en ce moment, puisqu'il y a un accroissement du nombre de dépressions. Hein. On est à 20%, on est à... je crois 10 points de plus ou quelque chose comme ça que d'habitude. Est-ce que c'est ça aussi un révélateur de cette crise, ces dépressions en série qui vont continuer parce que les gens, oui, sont dans un mal-être, déjà un mal-être affectif et puis qui va peut-être être aussi corroboré à une crise économique qui arrive?
Il y a deux choses que j'ai envie de dire de ça. C'est que c'est indéniable que la période est difficile pour plein de raisons. Pour des raisons de revenus pour une grande partie, donc des difficultés concrètement économiques, financières, et puis par le fait aussi effectivement d'être forcé à être chez nous et donc être coupé des plaisirs qu'on aime dans la vie, que ce soit la culture ou les restaurants ou les voyages ou tout. Donc c'est difficile et il faut le reconnaître. Et il faut respecter et autoriser un petit, j'allais dire coup de blues, mais c'est même pas ça, mais c'est, très sincèrement, c'est difficile. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai envie de dire aussi que c'est une période où il est extrêmement important, même primordial, de faire preuve de gratitude. Et de vraiment, presque religieusement, tous les soirs, se faire une exercice de gratitude, parce qu'à la base, on a une chance immense, ne serait-ce que par le fait de vivre en France. C'est un des pays au monde où on est le mieux protégé, où le gouvernement fait le plus pour nous. Et ne serait-ce que ce fait-là, c'est une chance. Et moi, si je me permets de prendre mon cas personnel, oui, je peux me plaindre d'avoir perdu mon activité cette année et que du coup, je n'ai pas pu acheter mon appartement à Copenhague, etc. Donc ça a eu des conséquences et que le lien social est très important pour moi. Mais quand je regarde la chance, c'est-à-dire cette liste de gratitude, et moi je le fais tous les jours, j'ai un joli appartement qui est agréable, j'ai mis de côté, donc je n'ai pas été, j'ai pas été en danger et j'ai eu le temps de plus... parler peut-être avec mes amis, ma famille au Danemark. J'ai même pu y aller aussi, comme j'ai la nationalité danoise, j'ai pu aller entre les deux pays. Et puis, j'avoue qu'à la fin, c'est vrai que moi, ça m'a poussée aussi, dans cette zone hors de mon confort, à revoir tout ça. Et je pense que là, à la fin de l'année, je pense que je serai mieux armée pour aborder 2021 que le début de 2020. Je pense que ce qui s'est passé cette année, en termes de créativité, en termes de réflexion, d'innovation, me permet d'aborder l'avenir mieux que début de 2020. Je n'ai pas voulu le faire, parce que je n'ai pas voulu cette crise, mais je pense que le bilan sera ça. Mais consciemment, pendant toute la crise sanitaire, et encore aujourd'hui, je fais tous les jours cet exercice de me dire, et aujourd'hui, il y a eu quoi où tu as envie de dire merci.
Tu évoquais un point qui est important, qui est vraiment dans l'actualité, c'est la culture. La culture, elle est extrêmement importante dans nos vies. Je ne sais plus si dans ton livre « Heureux comme un Danois », tu parlais de cette culture qui est importante, qui est un des ingrédients du bonheur, puisque c'est vrai que quand on va voir une pièce de théâtre, c'est un peu questionner notre monde. Les cinémas aujourd'hui sont fermés, les théâtres aussi, les musées. C'est des moments un peu particulier, on s'évade de cette réalité, on contemple la beauté d'une œuvre artistique. Est-ce que ça c'est un des ingrédients du bonheur qui nous manque aujourd'hui, non ?
Si, indéniablement, avec le lien social, il y a toute la culture, l'inspiration, le beau dans le sens, l'art, la danse, le théâtre, la musique, moi qui adore l'opéra, des concerts classiques, c'est... On est coupé, alors peut-être, je dirais bonheur, je dirais peut-être plus du plaisir, peut-être, j'ose, ces plaisirs-là sont des plaisirs avec du sens, peut-être plus que consommer quelque chose, mais le tout fait que d'être coupé, effectivement, de ces plaisirs. Après, je sais qu'on pourrait aller à nouveau, ils ont fait des efforts pour qu'on puisse aller visiter virtuellement des choses, mais c'est pas pareil, évidemment, parce qu'à nouveau, on ne le sent pas. On n'a pas l'énergie dans la pièce. Souvent, si on partage l'expérience avec des proches ou des amis, c'est autre chose. Donc, je pense qu'il y a une énorme souffrance. C'est difficile, en tout cas. Une épreuve d'être coupé de ces inspirations, ces moments d'inspiration, oui, d'inspiration, de plaisir.
Alors, ton dernier livre, il est sorti juste avant le confinement. C'était « Je te réponds, moi non plus », un livre qui parlait des non-réponses, original comme sujet. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire sur ce sujet auquel nous sommes confrontés en permanence, mais en fait, on ne l'avait pas conscientisé? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre?
Alors, moi, mon sujet principal, comme vous l'avez compris, c'est le bien-être et le bonheur. Mais de temps en temps, il faut aussi identifier des sources de frustration et de mal-être pour vivre mieux. Et j'ai longtemps observé cette évolution de la communication à l'ère digitale et notamment cette avalanche de messages qu'on reçoit parce que les sources sont de plus en plus nombreuses. Donc il y a des SMS qu'on connaît, il y a les WhatsApp, les Messenger, les mails évidemment, et toutes les messageries maintenant sur les médias sociaux. Donc en fait, on reçoit des messages tout le temps de différents bords. Donc, comment gérer cette avalanche en permanence de messages? Est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit répondre à tout ça? Et puis, effectivement, quid à cette non-réponse dont on est tous par moments émetteurs ou victimes, ou en tout cas sujets de la non-réponse des autres? Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Parce que, à travers un sondage que j'ai réalisé à travers du monde en 6 pays, J'ai voulu mesurer l'impact de ces non-réponses et il se trouve que 2 personnes sur 3 se sentent soit blessé, humilié, pas aimé, pas considéré et pas respecté face à une non-réponse. Donc une conséquence émotionnelle assez importante pour un phénomène qui est en train de grandir parce que tout simplement les gens n'arrivent pas à répondre à tous ces messages. Et en plus, quand je pose la question, au bout de combien de temps vous considérez que c'est une non-réponse? Pour les messages dits instantanés, c'est au bout de 3 heures pour 50% des gens. Donc au bout de 3 heures, si vous n'avez pas répondu à un message, ben, en fait, les gens commencent à se sentir humiliés, blessés, pas considérés. Et donc évidemment, dans cette incompréhension malentendue, on peut créer des tensions, des frustrations et donc du mal-être parce que la qualité de la relation, donc c'est le cœur du sujet du bien-être, va être affectée et on va peut-être se mettre carrément en conflit avec des gens à cause de ces non-réponses. Donc quoi faire face à une non-réponse, c'est une des questions que je réponds dans le livre et aussi comment augmenter la chance d'avoir une réponse, comment écrire un bon message, parce que par moment la non-réponse vient aussi parce qu'on n'a pas écrit le bon message.
Alors justement, il y a plein de conseils dans ce livre et j'invite tout le monde à le lire, mais justement comment on fait en sorte d'avoir une réponse, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qu'on recherche quand on écrit un mail ou un message.
Quelques petits trucs, c'est d'abord, enfin je vais vous simplifier la prise de parole, c'est de faire preuve d'empathie. C'est que mettez-vous à la place de la personne qui reçoit le message. Alors, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire vous prospectez quelqu'un ou vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, quel est le profil de cette personne? Quel est l'âge de cette personne? Quel est le nombre de messages supposé que la personne reçoit, et quel ton employé, et quel intérêt pour la personne de répondre à ce message? Est-ce que vous avez pensé à ça? Quand on veut quelque chose de quelqu'un, est-ce qu'on peut justifier d'attendre que la personne prenne le temps pour nous? Et je dis souvent, les gens doivent prendre le temps que vous avez mis. C'est-à-dire que si vous avez pris du temps à penser à la personne, quel intérêt, ou à écrire un petit mot, ou vous montrer que vous savez à qui vous écrivez, c'est pas du mass mailing, là, on peut peut-être toucher quelqu'un, ou être clair, pas trop long. Pas prendre le temps de quelqu'un qui n'a rien demandé. Et après, dans les relations plutôt privées ou des relations amicales, à nouveau, de l'empathie. Si vous envoyez une série de photos de vos vacances à quelqu'un qui est en plein travail, en crise, en gestion de crise ou autre, est-ce qu'ils ont vraiment le temps de répondre à des commentaires, à la vue de votre chambre d'hôtel? C'est d'essayer vraiment de se mettre un tout petit peu à la place de l'autre quand on envoie un message.
De bons conseils pour préparer 2021. Avant de te demander comment tu vas aborder 2021, je voulais te demander qu'est-ce que tu allais garder de 2020 comme enseignement.
Je vais... Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, j'avais pas une vie avant qui était très stressante. Et j'ai toujours été assez douée, ou j'ai mis comme une priorité d'avoir une vraie vie pour moi, privée, pour les gens autour de moi. Ma vie n'a pas été révolutionnée par ça, mais ça a peut-être plutôt confirmé des choses que je pensais déjà. Mais d'un point de vue professionnel, ça m'a poussée dans une réflexion que je pense qui va me faire du bien en 2021. Mais je n'ai pas eu une révélation, mis à part le fait de confirmer ce que je pense déjà, la qualité des relations, et puis surtout, et là ça a vraiment été fort, ma conviction que... Ça, c'est les études de Sonia Lyubomirsky qui parlent de 50% de notre potentiel bonheur qui est lié aux génétiques, 40% de ce que vous faites avec, c'est-à-dire l'attitude que vous avez dans la vie, les actions que vous prenez dans la vie, et puis seulement 10% qui relèvent des circonstances extérieures, ce qui vous arrive. Donc le Covid-19, c'est les 10%. Et les 40%, c'est l'attitude que vous avez eue tout durant cette crise. Et donc ça, je reste... persuadée, et quand je regarde autour de moi, quand je vois les gens, ceux qui ont la capacité à justement, c'est avec une partie de gratitude, d'avoir une forme d'humilité, pas se prendre comme le centre du monde, mais au contraire, jouer un peu collectif, avoir un peu de recul, avoir de la gratitude, à nouveau, tous ceux qui vivent ici en France aujourd'hui ont beaucoup plus de chance que la majorité des gens dans le reste du monde. Donc ça c'est à nouveau vraiment, vraiment confirmé. Et puis, je dis, peut-être gare à cette adaptation hédonique, dès qu'on sort de là, quand on va à nouveau pouvoir faire des choses, ne les prenez pas pour des acquis. Savourez et soyez conscient de à nouveau de pouvoir goûter à tout ça. Enfin, il faut vraiment pas louper cet enthousiasme qu'on peut trouver à nouveau et essayer de le garder et se dire en fait on peut être coupé de tout ça. Donc il faut profiter en pleine conscience.
Retrouver le goût des choses et les apprécier à leur juste valeur, peut-être oublié. Donc tu nous as donné quelques éléments, mais comment aborder 2021 et quels sont les conseils? Là encore, tu le disais, c'est une réflexion que tu mènes de longue date. Ça n'a pas fondamentalement changé ta manière de voir la vie, le monde. Mais malgré tout, comment aborder, quand on n'est pas dans ton état d'esprit, cette période-là
qui arrive? Je pense que déjà, il faudrait vraiment, de manière assez sérieuse, mais ou en tout cas prendre le temps de faire le bilan de cette année. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que nous avons appris individuellement, collectivement de cette année? Qu'est-ce que ça nous a donné comme enseignement cette année? Et le garder et pas juste passer à autre chose quand tout va se normaliser à nouveau, mais garder ces enseignements-là pour les impliquer dans notre vie et pas les perdre. Parce que si vous les perdez, c'est un peu dommage parce que du coup, on aurait passé tout ça pour, entre guillemets, rien. On peut vraiment sortir renforcé de là en ayant grandi et en ayant la capacité de vivre une vie encore meilleure que celle qu'on était capable de vivre en 2020.
Quel sera, pardon, mais 2021 est quand même dans toutes les têtes, on en rêve, quel sera ton motto en 2021? Ton mantra, ce qui va te guider, là encore, cette petite phrase. On a besoin de petites phrases, de petits...
J'ai envie de dire de danser avec la vie, de faire confiance à la vie. Moi, je pense que j'ai passé une partie de mes jeunes années à être persévérante, à aller contre le courant, à la porte se fermer, je vais passer par une autre ou par la fenêtre. Je crois que j'ai envie d'aller avec le courant et de découvrir et de faire confiance à la vie. Je pense qu'elle me veut du bien, donc j'opte pour cette philosophie-là pour 2021. 2020 a été tellement une année éprouvante que je pense que j'ai envie de prendre un peu... Enfin, j'ai une direction dans ma vie. Je pense que j'ai une vie qui me corresponde, donc je vais accueillir ce qui m'arrive et je vais le prendre du bon côté.
Alors, mis à part tes livres qu'il faut lire absolument, vous l'aurez compris, ils recèlent de plein de conseils avisés. Quel livre tu nous conseillerais à lire avant la fin de l'année qui fait du bien?
Alors, moi, mes livres préférés sont peut-être pour certains un peu sombres, mais en tout cas, ça va au fond du sujet. Il y a Scott Peck, The Road Less Traveled, le chemin le moins fréquenté, qui est un livre extraordinaire pour comprendre la connaissance de soi, le chemin qu'il y a à faire, des choses à accepter, à comprendre pour avoir cette base nécessaire pour vivre bien avec soi, mais aussi avec les autres. Donc, le chemin le moins fréquenté. Alors, il y a un livre que moi, j'adore, qui est celle de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Et c'est un livre assez court d'ailleurs, mais qui parle de justement cette capacité de latitude face à une réalité. Viktor Frankl a fait les camps de concentration et il a voulu comprendre pourquoi il y a certains qui survivent et d'autres pas dans un camp de concentration. Quelle est la différence? Et en fait, ce qu'il a découvert, c'est que ceux qui survivent, ou celles qui survivaient, c'était ceux qui avaient un sens à la vie, le fameux purpose de la vie. Et ça, c'est assez fort, parce qu'il disait, ceux qui savaient pourquoi ils se levaient le matin, pourquoi ils vivaient, ils survivaient. Et donc ça, c'est peut-être mon dernier message, c'est d'essayer de se poser cette question, pourquoi je me lève le matin? À quoi j'ai contribué pour faire un meilleur monde? Ça donne un sens d'une certaine forme de collectivité et dans un camp de concentration où il n'y en a plus ou pas du tout du sens. Il avait aussi une autre observation dans ce livre, c'est que La seule source de plaisir dans le camp de concentration, c'était un bout de pain qui leur était offert tous les jours. Il y avait trois groupes de gens. Il y avait des gens qui prenaient le bout de pain, à un moment pour avoir une pleine satisfaction. Il y avait un autre groupe qui coupait en trois. Le bout de pain, il y avait trois petits moments de plaisir, un peu moindres, mais trois fois. Et il y avait le dernier groupe qui coupait en quatre, qui avait trois moments de moindre plaisir, mais du plaisir, et qui donnait les derniers morceaux à quelqu'un d'autre. Et le groupe qui était le plus heureux, c'était le groupe qui le coupait en quatre et qui donnait les derniers morceaux à quelqu'un. Et donc c'est un livre, et il y a une citation que je trouve très... très joli, de Viktor Frankl, qui celle où il parle de la liberté et de l'attitude, où il dit « On peut tout retirer à l'homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de l'attitude personnelle qui prendra face à un ensemble de circonstances, afin de décider de son propre chemin. » Et je pense que c'est ce qu'on a fait cette année. On a tous eu cette seule liberté de l'attitude qu'on a eue face à cette crise sanitaire.
Merci beaucoup pour ce très beau mot de la fin, Malyne Ridal. Merci.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au Féminin. Et pour nous suivre, rendez-vous sur businessauféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.